Et Lucevan les stelles record présente Ad Vesperas de Marco Mencoboni, lecture de Frank Provedi.
Il avait découvert la mer à l'âge adulte, durant la première nuit du voyage d'Espagne en Italie, qui l'éloignait des terres âpres de Tolède pour le conduire à Rome, la ville du pape. Cette première longue nuit en pleine mer lui ouvrait les portes d'un monde inconnu. Suspendu entre ciel et terre, il se retrouvait seul, dans l'immensité de la nature et dans la contemplation de ses mouvements. L'ensemble de ces ondulations merveilleuses constituait l'essence de la pureté, celle-là même qu'il recherchait dans son art, la musique. Au milieu de la mer, dans l'obscurité de la nuit, l'oreille tendue vers le ciel, il entendrait un jour le chant des sphères, la douce symphonie que les étoiles et les planètes émettent en s'effleurant et en se caressant les unes les autres dans l'univers. Pour Diego Ortiz, les années passées à Rome furent glorieuses. Sa réputation de virtuose franchit les murs de la ville. Ses livres sur l'art de jouer de la viole atteignirent Venise et franchirent même les Alpes. Un jour du printemps 1552, il reçut un pli fermé avec le sceau du roi d'Espagne. Un pli que Charles V en personne lui adressait, qui contenait une lettre et un livre. La première page du volume portait l'inscription « Nicolae Copernici Torinensis, de revolutionibus orbium celestium » et la lettre demandait à son destinataire de se rendre à Naples pour redonner vie à la chapelle royale de musique. L'ouvrage allait bouleverser l'idée que l'on se faisait de l'univers depuis des siècles. Et la lettre, la vie de Diego Ortiz qui n'avait alors que 30 ans. À Naples, le nouveau Magister Musices de la chapelle royale n'avait trouvé qu'un seul endroit apte à lui procurer l'émotion de sa première nuit en pleine mer, la pointe de l'île de Castel dell'Ovo. Pour lui, se trouver là était comme naviguer en mer, et les nuits de pleine lune, il s'y rendait après vêpres. De ses mains, il avait aménagé un long siège pour regarder le ciel et écouter le bruit de la mer. Se pliant chaque fois au même rituel, il se débarrassait de son épée et, confiant, tendait l'oreille vers le ciel. Il demeurait dans cet état de contemplation des heures durant, jusqu'à ce qu'il sentît l'harmonie de l'immense résonner avec force en lui. Alors seulement, il se levait et montait vers la petite chapelle du château où se trouvait l'une de ses violes à archer, et il jouait et chantait jusqu'à l'épuisement, comme s'il avait voulu transformer en musique la grâce dont il était empli. C'était là sa manière de prier Dieu. La nuit sans lune du vendredi 9 mai 1567 fut différente des autres. En effet, les yeux levés vers le ciel, un homme était allongé sur le siège. Le souffle d'une épée dégainée trancha l'air et l'inconnu se leva d'un bond, effrayé. C'était un jeune Napolitain qui aimait observer les étoiles et qui, pour ce faire, avait rejoint à la nage la pointe de Castel dell'Ovo. Il évita d'être embroché en nommant Jupiter, bien visible et resplendissante au sud, bas sur l'horizon. Quelques mots suffirent pour que l'arme soit rengainée, que les soupçons s'estompent et que la peur se taise. Depuis la publication de son Musices Liber Primus, Diego Ortiz était convaincu d'être en danger permanent pour avoir ridiculisé et offensé les musiciens napolitains dans son ouvrage. Pour autant, ce jeune homme qui aimait les étoiles ne lui inspirait pas la moindre peur, et il s'entretint avec lui d'astronomie, d'arithmétique, de géométrie et de musique. Avant le point du jour, ils parlèrent du chant des sphères et le jeune homme affirma que si Platon et Dante avaient connu le chant de Camilla Esposito, ils l'auraient jugé plus beau que la musique de l'univers. Intrigué, Ortiz demanda où l'on pouvait écouter cette voix. Le jeune Napolitain répondit que Camilla Esposito chantait pour les vêpres le dimanche à l'église de l'Annunziata. Cette dernière était le royaume de Domenico d'Anola, le musicien napolitain qui transformait les enfants trouvés en chanteurs et en musiciens. Des centaines d'exécutants, disait-on, bouleversaient les âmes souffrantes jusqu'au tréfonds et les élevaient vers la béatitude. La musique n'accomplit pas de miracles, songea Ortiz. Bien qu'il habite à Naples depuis des années, il s'était interdit d'écouter la musique des chapelles napolitaines qu'il tenait en mépris. Intra Augustos terminos esse positam, ut a suis progenitoribus nulla similitudine sit aniocenda. La musique est à tel point mise de côté que ses inventeurs ont du mal à la reconnaître. Bientôt, écouter subrepticement cette musique devint son désir le plus ardent. Le jeune homme s'offrit de l'accompagner à l'Annunziata pour assister aux vêpres du dimanche suivant, et le magister accepta. Il viendrait sous de fausses apparences, sans armes ni escorte. Sous l'ample capuche de l'habit religieux qui lui couvrait le visage, quelques touffes de sa barbe bouclée se devinaient à peine lorsque ses serviteurs le virent disparaître à pied, englouti dans le vacarme des rues sombres, étroites et grouillantes de Naples. Ponctuel, le garçon des étoiles l'attendait sur le parvis. Le soleil venait de se coucher et ils entrèrent. L'église était bondée et l'officiant entonna le Deus in adiutorium. Auxquels répondirent les moines placés dans l'abside. De la douceur de ces voix qui se fondaient ensemble, il comprit tout de suite que le monde sonore dans lequel il se serait petit à petit immergé était très loin de ce qu'il était habitué à entendre. Le magister eut un frisson de peur. Les psaumes étaient scandés avec fierté par un groupe de chanteurs autour du pupitre. C'étaient les voix du peuple, dotées d'un volume et d'une puissance impressionnantes. Quand ils chantèrent Il Gloria, il leva les yeux, cherchant le lieu là-haut à la cime de la coupole, vers laquelle se dirigeaient les chants et les bras des chanteurs, invoquant la miséricorde de Dieu. Le magister n'avait jamais rien entendu de semblable. Une tempête de musique l'étourdissait et l'enivrait, et pareils au vent, des rafales de sons lui fouettaient le visage. Ce fut après le Confiteor, entonné en quinte parallèle, que le miracle se produisit, car la polyphonie se développa d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Peu de voix qui chantaient a cappella se joignaient ensemble dans tous les recoins de l'église, mais lorsqu'il se retournait pour en chercher l'origine, il ne trouvait nulle trace des personnes qui chantaient. La mélodie du Alma Redemptoris Mater, chantée par une seule voix de soprano, se détacha avec netteté des autres parties, et le jeune Napolitain secoua le magister. C'était la voix de Camilla Esposito. Elle chantait avec une intonation parfaite, et son timbre était hors du commun. Lorsqu'elle montait dans les aigus, sa voix était adoucie par sa couleur et brillait comme de l'argent. Et lorsqu'elle descendait dans les graves, sa sonorité s'assombrissait et résonnait avec force avec la couleur du bronze. On comprenait difficilement d'où provenait cette voix, à croire que la toiture s'était déchirée et qu'elle arrivait directement du sommet du paradis. Entre les notes longues du Cantus Firmus, la cantatrice prolongeait les roulades, comme si elle avait voulu écrire dans les airs avec sa voix. Voilà quelle était la musique que le magister avait publiquement méprisée. Maintenant qu'il y était immergé, il n'avait qu'un seul désir: savoir quelle forme sa propre musique aurait prise si elle avait été chantée ainsi. Lorsque le ténor du motet fut entonné avec vigueur, il sentit que l'on abaissait rudement la capuche de son habit sur son visage. Il fut tiré en arrière et la masse de son qui l'entourait rendit inutile toute tentative de demander de l'aide. Il fut entraîné dans des ruelles, bondé vers ce qu'il pressentait être le terme de son existence. Le jeune homme qui aimait les étoiles était un leurre. Il se retrouva seul dans une grande pièce vide et attendit. Quelques heures plus tard, six hommes, voilés de blanc, entrèrent accompagnés des notes d'une villanelle chantée par une voix inimitable, Camilla Esposito. On lui communiqua le motif de sa condamnation à mort. Une jeune Napolitaine avait été enlevée par un groupe de soldats espagnols et abusée dans les quartiers. Lui, le magister, était l'un des agresseurs. Aucun mot ne put démentir cette infamie. Le chant approchait, au point qu'il perçut la respiration de la cantatrice derrière la porte. Enfin, le visage de Camilla Esposito lui apparut. La beauté de ses traits ne masquait ni la rage, ni le mépris avec lesquels, tout en chantant « Empio cor, cruda voglia », elle s'approchait du magister, si près qu'il sentit son souffle chaud sur son visage. Une seconde descendante, chantée d'une voix de poitrine, s'enfonça profondément à la recherche du cœur du magister. à croire qu'à cet instant la musique avait le pouvoir de tuer. Mi parto ahí, sorteria, sola soletta me ne vo cantando. Elle disparut. La chambre de propagation pour l'affinement du goût musical était la prison de Diego Ortiz, un lieu où la musique était chez elle, de sorte qu'on ne lui refusa pas un instrument pour accompagner ses prières. On lui apporta une viole ténor qu'il accorda avec soin avant de commencer à jouer. La musique le sauva. Il joua et chanta toute la nuit, comme il avait l'habitude de le faire dans la petite chapelle de Castel del Lovo. Avec la viole, il entonnait la mélodie d'un motet, Salve Regina o Alma Redemptoris. Avec la voix, il effectuait les canons et avec l'instrument, les diminutions. Jusqu'à l'aube, l'édifice résonna de ses contrepoints et tous les musiciens présents demeurèrent éveillés pour écouter son art merveilleux. Quant à Camila Esposito, elle dormit et le lendemain matin, elle demanda la remise en liberté de Diego Ortiz. Pendant son sommeil où la musique du Magister l'avait bercé, le visage d'une femme lui était apparu, une moitié de médaille napolitaine à la main. L'autre moitié, c'était elle qui la possédait. Elle était attachée à son poignet lorsque sa mère l'avait déposée dans la tour de l'Annunziata, enveloppée d'un chiffon vert. Trouver l'autre moitié de cette médaille était le rêve de sa vie, et la musique entendue dans la nuit lui avait donné un espoir. C'était un signe du destin, pensait-elle. Le magister reçut des vêtements propres. Les mots furent superflus. Ils s'inclinèrent devant sa personne et sa musique, et le firent accompagner au Palazzo Reale, convaincu qu'un jour ou l'autre, il reviendrait pour les faire arrêter. Il revint, en effet, mais avec un présent, son Musices Liber Primus, et l'invitation à se joindre à la chapelle royale pour chanter et jouer à l'occasion des vêpres solennelles célébrées à la chartreuse de San Martino, en présence du vice-roi d'Espagne. La célébration eut lieu le 11 novembre 1567 et débuta lorsque l'un des chartreux frappa fortement l'un des pétales de la fleur en pierre noire de la chapelle San Giovanni Battista qui résonna. Puis Camila Esposito intona le Dixit Dominus. Tous commencèrent à chanter. Rodio, Danolla, Valente, Dentice et le magister Diego Ortiz chantaient et jouaient autour du grand pupitre de bois de San Martino. Pour la première fois, Naples et l'Espagne unissaient leurs voix dans un seul chant. C'était le plus grand miracle accompli par Camila Esposito. Plus intime, plus profond, un second miracle se préparait. Lorsqu'elle articula les mots mater du Benedictus Celorum, la jeune Napolitaine sentit sa demi-médaille glisser. Elle rebondit deux fois, s'arrêta devant une religieuse agenouillée en prière derrière l'autel et resta en équilibre sur le sol, entre les mailles de la grille qui s'ouvrait sur la chambre de résonance du cœur. Camille la arrêta de chanter et courut la ramasser. Au même instant, la religieuse qui avait interrompu sa prière avança sa main blanche et chaude vers le sol. Les mains des deux femmes se touchèrent. La jeune fille leva les yeux et découvrit dans le visage de la religieuse celui de la femme qui lui était apparue en songe. « comme lors de cette lointaine nuit, la musique de Diego Ortiz résonnait autour d'elle. Je ne sais jamais pourquoi Camila Esposito cessa brusquement de chanter au lendemain de ses vêpres. Pas même le magister, qui à la fin du service écoutait, en proie au ravissement, l'harmonie parfaite dans laquelle s'achevait son Salve Regina à cinq voix. En haut, dans le ciel, Vénus resplendissait. Au sud, la lune était haut sur l'horizon. Sous peu, Orion et Sirius seraient les maîtres de la nuit. Mais ce qui s'éteignait lentement devant lui, celui-là, c'était le chant des sphères.
Fran provvedi a lui ad vesperas di Marco Mencoboni. Il canto di Diego Ortiz e di Marco Scavazza. La viola d'arco di Diego Ortiz e di Cristiano Contadini. Il canto di Camilla Esposito e di Lia Serafini. Tutte le musiche sono eseguite dal complesso Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni. Il racconto ad vesperas è pubblicato nel numero 16 di FMR. Il compact disc Ad Vesperas è pubblicato dall'etichetta Alfa. Per tutta informazione sul disc Ad Vesperas e su tutti i progetti di la musica di Diego Ortiz, consultate il sito www.alfa-prod.com. E Lucevan Le Stelle Records, l'ensemble Cantar Lontano e Marco Mencoboni, vous souhaite des bonnes fêtes.